20 février 2018, comment allez-vous? En cette journée de pluie, ça prend le parapluie parce que ça tombe pas mal. Hélène Denis qui vous accompagne à cette émission Revue de presse intitulée « Le quotidien des quotidiens ». Maurice Bolduc, bonjour.
Oui.
Est-ce que vous êtes en forme?
Oui, vous-même.
Oui. Ah oui, ça va, ça va. C'est pas bon. Dormi beaucoup, par exemple? Il me semble que quand on boit du café à 6 heures le soir, c'est difficile
ça
de s'endormir.
Pas. Non, ça aide pas.
Alors, on vous écoute, mon cher.
Oui, en ce 20 février aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la justice sociale. Ça devrait être comme ça tous les jours, tout simplement. Ouais. Ça aiderait un brin. Des événements en 1666, c'est l'explorateur Robert Cavelier de La Salle qui arrive à Montréal, un explorateur français. En 1763, le Parlement de Londres ratifie le traité de Paris par lequel la France cède le Canada à l'Angleterre. En 1872, c'est l'ouverture du Metropolitan Museum of Art à New York. C'est les premières en 1945, c'est le début de la distribution des allocations familiales au Canada. En 1954, au Nouveau-Brunswick, CBAF entre en onde, c'est la première radio francophone à desservir les provinces des Maritimes. En 1962, c'est le premier Américain, John Glenn, qui est placé en orbite autour de la Terre à bord d'une capsule Mercury. Le vol a duré exactement 4 heures 56 minutes et 26 secondes. En 1980, après l'invasion de l'Afghanistan, Jimmy Carter annonce que l'équipe des États-Unis n'ira pas aux Jeux olympiques de Moscou. Et Moscou y a rendu l'appareil en 1984. En 1988, le carnaval de Rio tourne à la tragédie alors que des inondations gigantesques et des glissements de terrain font quelque 275 morts et plus de 12 000 sans-abri dans l'état de Rio de Janeiro. En 1989, la Commission des droits de la personne statue que les femmes sont admissibles aux postes de combat dans l'armée canadienne. En 92, celle-là, je la trouve rigolote parce que là, je vais faire un petit lien. Rien ne se perd. Oui, mais pas tout à fait.
Ah
parce qu'en 92, aux Jeux d'Albertville, donc aux Jeux d'hiver, les patineuses québécoises Sylvie Daigle, Nathalie Lambert, Angèle Cutronnet et Annie Perrault remporte la médaille d'or aux 3000 mètres relais sur courte piste.
Moins ça change, moins c'est pareil.
Oui, c'est ça.
Non, parce plus que, ça change, moins c'est pareil.
Parce que ce matin, Marianne Saint-Gelais,
ouais,
à côté de Cassandra Bradette et
Kim Boutin.
Et il m'en manque une, Kim Boutin et Valérie Maltin, ont été éliminées ce matin au même 3000 mètres courte piste. Donc 26 ans plus tard, à la même date quand même.
Ouais.
Ce que je trouvais rigolo, c'est la même date.
Juste ça de rigolo.
C'est plate pour les filles, mais c'est comme ça, c'est la compétition. En 96, la société exploitante Aéroports de Montréal annonce le transfert des vols réguliers de Mirabel à Dorval. J'ai eu une naissance aujourd'hui, François-Marie Arouet. Ça nous dit rien, mais il s'appelle dit Voltaire, né en 1694.
Oui, ça nous dit quelque chose.
Et un décès en 1941, décès de Mary Travers, qu'on appelait la Bolduc. Donc, morte après avoir eu un accident dans l'est de Montréal, morte au coin Hochelaga et Ontario.
La Turluteuse, il va avoir un film bientôt. Là,
J'ai même sorti une toune avec Debbie Lynch White ce matin.
Oui, qui incarne la Bolduc.
Oui, le film qui sort très bientôt, on pourra l'écouter plus tard.
Parfait, merci Maurice.
Et merci à toi.
Exclusif en une de la presse, bras de fer entre Barrette et le gouvernement, l'entente conclue avec les médecins spécialistes viendra-t-elle compromettre les engagements du ministre de la Santé envers les infirmières? Gaétan Barrette réclame une augmentation de 5,2% de son budget, alors que le Conseil du Trésor prévoit plutôt lui accorder une hausse de 4%, a appris la presse. Deux ex-chefs présumés de la mafia montréalaise acquittés. La cour a conclu qu'ils avaient été écoutés illégalement. La chronique de Michel Ouimette, Mont-Royal, d'accord avec vous, M. Ferrandez. La chronique de Stéphanie Grandmont, les hypothèques vendues à tort et à travers. Philippe Quentin et sa chronique « Le numéro d'une vie, un chant du cygne en or » pour Tessa Virtue, et Scott Maurer, les patineurs. Le gouvernement Couillard a un mois pour régler un différend important entre le Conseil du Trésor et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. L'enjeu du bras de fer, plus de 500 millions que réclame le titulaire de la Santé pour la croissance des dépenses de 2018-2019, dont le règlement de la crise avec les infirmières. Mécontent devant le règlement du litige avec les médecins spécialistes, le ministre Barrette, semble-t-il, craint qu'on ait considérablement réduit sa marge de manœuvre pour l'an prochain et compromis ses engagements à l'endroit des infirmières. Or, il avait demandé une augmentation de 5,2% de son budget pour l'an prochain, mais le Conseil du Trésor compte limiter le méga-budget de la santé, 38 milliards, à une augmentation de 4%, a appris la presse. Le Conseil des ministres est actuellement mobilisé par ses arbitrages qui doivent être prêts pour le dépôt du budget durant la troisième semaine de mars, le 20 ou le 22, selon le plan. Les décisions pressent puisqu'il faut tenir compte des semaines de relâche parlementaire et de l'absence de Philippe Couillard en mission à Paris début mars. Exceptionnellement, le Conseil des ministres se réunira ce soir plutôt que mercredi pour devancer des décisions. Au cœur des inquiétudes de Gaétan Barrette, son intention de donner le feu vert à l'embauche de 3 000 nouvelles infirmières, une facture annuelle à terme de 240 millions environ. Mais de toute façon, il ne se trouverait pas 3 000 personnes pour occuper ces postes à court terme. Gangstérisme et complot pour trafic de cocaïne, deux ex-chefs présumés de la mafia montréalaise acquittés. Ceux que la police considérait en 2015 comme les chefs présumés de la mafia montréalaise, Leonardo Rizzuto et Stefano Sollicito, ont été acquittés hier des chefs de gangstérisme et de complot pour trafic de cocaïne auxquels ils faisaient face depuis 3 ans. Le juge Eric Downs a prononcé leur acquittement à la suggestion de la poursuite, après que celle-ci eut annoncé qu'elle ne pouvait plus se décharger de son fardeau et qu'elle n'avait plus de preuves à offrir. La pluie et le redoux menacent le pont de glace Hudson-Oka. C'est la seule grande route du Grand Montréal où l'on n'épand pas un seul gramme de sel en hiver. Le pont de glace reliant Hudson et Oka est tout de même menacé par la météo des prochains jours et plus fondamentalement par les changements climatiques. Le pont peu connu des Montréalais s'étend sur 2 kilomètres de voies glacées. Automobilistes et piétons défilent calmement, roulant et marchant littéralement sur les eaux de la rivière des Outaouais. Les motoneigistes, eux, fusent dans un boucan d'enfer. Jean-Claude Léger, copropriétaire du pont avec son frère depuis 1987, perce des trous à la tarière pour permettre à la pluie des prochains jours de se drainer. C'est la première fois depuis 2015 que les conditions météo lui permettent d'ouvrir le pont. Et ce ne sera pas un grand cru. Inauguré seulement le 31 janvier dernier, M. Léger estime que son ouvrage n'en a plus pour bien longtemps. On voit la tendance de réchauffement climatique, c'est définitif. J'ai des données de 1942 à aujourd'hui en bloc de 10 ans et tu vois la tendance, dit M. Léger. Depuis 30 ans, ça fait 5 fois qu'on ne peut pas ouvrir. 2002, un hiver très doux. 2008, un hiver très enneigé. 2012, 2016 et 2017, explique-t-il aussi. Environnement Canada a diffusé hier une alerte météo prévoyant un important redoux accompagné de quantités significatives de pluie. En attendant, les résidents du coin en profitent pour un Okwa qui veut rendre visite à un Hotsunois. Il s'agit d'un raccourci de 80 km. Grand Nord québécois, la tuberculose, une maladie d'un autre siècle qui n'avait pas fait de mort depuis des décennies dans le Grand Nord du Québec, a tué un jeune homme de ce territoire le 3 juin 2017. C'est un rapport de coroner récemment publié qui le confirme. L'homme de 21 ans est mort des suites d'une tuberculose pulmonaire, a écrit le docteur Jean Brochu. Il savait qu'il avait été en contact avec une personne porteuse de la tuberculose, mais il n'a pas fait les suivis recommandés et il ne s'est pas présenté à un rendez-vous pour une radiographie pulmonaire. Il croit aussi que la consommation d'alcool et de tabac du jeune homme a pu camoufler les symptômes de la maladie. Un résident du Nunavik a environ 200 fois plus de risques d'attraper la tuberculose que la population générale du Québec. À la une, c'est-à-dire la caricature de Serge Chapleau, on voit une Martine Ouellette. Après l'appui massif 90,7 au chef du NPD, Martine Ouellette cherche une solution pour relancer le Bloc. Alors, on la voit tout en bleu vêtu, arborant un turban comme celui du chef du NPD. Au moins 17 personnes ont été tuées hier au Mozambique quand des pluies diluviennes ont provoqué l'écroulement partiel d'un gigantesque amoncellement de détritus. L'accident s'est produit dans la capitale Maputo. Les secouristes croient que d'autres victimes sont prisonnières des décombres dans le dépotoir de Hulen à l'extérieur de la capitale et les fouilles se poursuivent. L'ancien entraîneur de football britannique Barry Bennell, âgé de 64 ans, a été condamné hier à 30 ans d'emprisonnement pour des sévices sexuels infligés à des mineurs. Il avait précédemment été reconnu coupable de 50 infractions, 43 à l'issue de son procès en plus de celles déjà avouées, des agressions incluant des viols, des tentatives de viol et d'autres agressions sexuelles à l'encontre de 12 garçons qu'il entraînait entre 1979 et 1991. « Vous étiez le diable incarné », lui a lancé le juge Clément Goldstone à la lecture de la condamnation. C'est le nombre de personnes, 224 000, qui sont sous-alimentées dans l'ensemble du continent africain, où les changements climatiques et les conflits renforcent l'insécurité alimentaire, selon un haut responsable de l'ONU. S'exprimant lors d'une conférence sur l'Afrique à Khartoum, organisée par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies, Boukhar Tidjani a indiqué que cette situation était un sujet de préoccupation, alors que la population du continent devrait atteindre 1,7 milliard de personnes d'ici 2030. En Afrique, la sous-alimentation est passée de 21 à 23 % environ entre 2015 et 2016, a ajouté le directeur général adjoint pour l'Afrique de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture au premier jour de la 30e conférence régionale pour l'Afrique.
Une histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là où final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin. Donne-moi la main, là au final, quand je prendrai. Aucun requin, aucun air triste, aucun regret, aucun séisme, aucune langue de bois.
Françoise Hardy qui nous chantait « Le large ».
À la une du Devoir de ce 20 février 2018, Pyeongchang 2018, l'or ex aequo. Le Canada a remporté la médaille d'or en bobsleigh à deux aux Jeux olympiques 2018 en Corée du Sud. Cet honneur, Justin Cripps et Alex Kopasz le partagent avec les représentants de l'Allemagne. Des examens de français mieux adaptés. L'évaluation des connaissances des professionnels immigrants tiendra compte de leur contexte de travail. Échec partiel de la biobanque Cartagène. Le financement du séquençage du génome des participants pose problème. Franc ouverte, je cours les concours. Claude Pelgag et Tire le Coyote parlent de compétition, d'ambition et de reconnaissance. Ça prend du guts, pareil, pour faire ça, lance Benoît Pinette, alias Tire le Coyote. Faire ça, c'est monter sur scène dans le cadre du concours vitrine Les Francs ouvertes, dont Benoît Pinette est le porte-parole avec sa compatriote musicale Claude Pelgag. L'événement musical, qui en est à sa 22e édition, s'est lancé lundi soir au Lion d'Or. Une odeur de censure à Rome. Des réalisateurs se portent à la défense d'un important festival de cinéma en lutte contre l'administration municipale. Pesticides, des doutes sont soulevés sur l'indépendance des agronomes. Et Bombardier, le Kamouraska mobilisé pour protéger les emplois à la Pocatière. Thank you. Fini les corrections trop sévères et les thèmes trop vagues. Mieux adaptés aux candidats, l'examen de français obligatoire que les immigrants doivent réussir pour devenir membres d'un ordre professionnel vient d'être entièrement revu pour faciliter la réussite et déjouer les tricheurs. L'ancien examen n'était pas conçu pour évaluer la compétence langagière liée à la profession, reconnaît Danielle Turcotte, directrice générale des services linguistiques à l'Office québécois de la langue française. Alors que maintenant, tout est conçu pour que les candidats se sentent directement impliqués dans un processus lié à leur profession à travers une étude de cas. On n'est plus au mot à mot ou aux lettres à lettres, on est dans un contexte de langue seconde, dit Danielle Turcotte. Dix ans après sa mise en branle, la grande banque d'échantillons de sang et de données sur la santé et les habitudes de vie des Québécois, Cartagène, est sous-utilisée par les chercheurs. Car l'équipe peine à trouver le financement nécessaire pour réaliser l'ultime étape qui rendrait cette biobanque vraiment utile pour la recherche, le séquençage du génome des milliers de participants. Pour inciter les chercheurs à utiliser la banque Cartagène, Génome Québec avait rendu disponible en 2011 une somme de 3 500 000 $ destinée à augmenter le budget alloué aux chercheurs qui l'utiliseraient. Malheureusement, il y a eu peu de propositions de projets et seulement 350 000 $ ont été utilisés. On a été obligé de retourner 3 150 000 $ au gouvernement du Québec, souligne Daniel Coderre, président-directeur général de Génome Québec, l'organisme qui finance les projets de recherche en génomique. Le fait que les chercheurs ont peu recours à Cartagène s'explique en partie parce qu'ils doivent payer eux-mêmes le séquençage du génome. Ça nous désole de voir que cette banque, qui a un grand potentiel, est sous-utilisée. Il faudrait séquencer, mais c'est très coûteux. La grande valeur de Cartagène réside dans l'interface entre le génome séquencé et les données phénotypiques sur l'état de santé des participants, qui sont d'une grande richesse, souligne Daniel Coderre. La plateforme Cartagène devrait ainsi permettre de mettre en lumière les interactions entre le génome d'une personne et son alimentation, son mode de vie et son environnement, qui sont cruciales dans l'apparition de maladies telles que le cancer. Céline Moore, directrice du projet de partenariat canadien Espoir pour demain, affirme que Cartagène peut espérer recevoir dans les années à venir le même financement qu'elle a reçu de l'Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer depuis 2008. Le dirigeant de l'État du Punjab, qui avait publiquement accusé des membres du gouvernement de Justin Trudeau de soutenir les séparatistes sikhs en Inde, rencontrera finalement le premier ministre canadien cette semaine. Un gazouillis transmis sur le compte Twitter d'Amarinder Singh, le ministre en chef de l'État du Punjab, indique qu'il rencontrera M. Trudeau mercredi. M. Singh espère que la rencontre permettra de resserrer les liens d'affaires et personnels entre les deux pays. Deux sikhs qui avaient été interdits d'entrer à l'Assemblée nationale car ils refusaient de retirer leur kirpan, un petit couteau à signification religieuse, ont été déboutés lundi par la Cour d'appel du Québec. Balpreet Singh et Arminder Kaur, membres de la World Sikh Organization of Canada, contestaient en appel une motion unanime adoptée en 2011 à l'Assemblée nationale qui confirmait le droit de la direction de la sécurité à interdire l'entrée à quiconque refuserait d'enlever son kirpan avant de pénétrer dans l'enceinte du Parlement. Le juge Patrick Healy de la Cour d'appel a rejeté l'appel des deux plaignants avec dépens et a donné raison au juge de première instance qui avait rappelé le droit de l'Assemblée nationale d'établir ses propres règles en vertu du privilège parlementaire, ne permettant pas au tribunal d'intervenir même s'il y avait une atteinte à un droit constitutionnel. Invité à commenter la décision, Balpreet Singh, qui représente la World Sikh Organization of Canada, n'a pas voulu se prononcer pour l'instant, préférant étudier le jugement et analyser ses options. La chose pourrait paraître contre-intuitive, mais les tiraillements au sein du Parti conservateur de l'Ontario à la suite de la démission puis de la tentative de retour du chef Patrick Brown pour inconduite sexuelle propulsent le parti vers le sommet. Les Ontariens semblent encore plus déterminés qu'il y a 3 semaines à remplacer les libéraux de Kathleen Wynne par les conservateurs, quel qu'en soit le leader. Le dernier coup de sonde effectué par Forum Research accorde 49 % des intentions de vote aux conservateurs. Alors que se précise l'ampleur du scandale sexuel ayant entaché Oxfam en Haïti, la ministre du Développement international implore les Canadiens de garder, comme elle, confiance en l'organisation humanitaire et ses travailleurs. Il faut faire la distinction entre les différents Oxfam, mais il faut aussi faire la distinction entre des individus et des organisations. On ne parle pas d'une culture d'entreprise, loin de là, a déclaré Marie-Claude Bibeault lundi en entrevue avec la presse canadienne. Certes, un cas, c'est un cas de trop, mais il faut éviter de généraliser quand on pense au nombre de travailleurs humanitaires qu'on a dans le monde, a-t-elle insisté. La ministre a offert cette analyse quelques heures après qu'Oxfam Grande-Bretagne eut publié un rapport partiellement caviardé sur les allégations visant 7 de ses employés qui auraient eu recours à des prostituées dans ses locaux haïtiens après le séisme de 2010. Elle a précisé qu'elle avait obtenu la garantie qu'aucun employé ni aucun fonds canadien n'était lié à la situation en Haïti, soutenant qu'il serait dommage que cette affaire ait un impact négatif sur la générosité de la population canadienne. De retour après la pause.
Par la faute du nombre, j'ai
On vient d'entendre Simon Kingsbury qui nous chantait « Tuer la bête ».
À la une du journal de Montréal, un couple en or, Tessa Virtue et Scott Meyer, ont livré une performance sans faille hier soir pour remporter la troisième médaille d'or canadienne de la journée en Corée du Sud. Vidéo troublante à l'hôpital Charles-Lemoyne, chasse aux coccinelles au bloc opératoire. Entente avec les médecins quand un ex-PM négocie contre Québec, on a la photo de Lucien Bouchard, une minorité inventée, c'est la chronique de José Legault, et le caméléon Justin Trudeau, la chronique signée Richard Martineau. Coccinelle dans la salle d'opération. L'incident est survenu le 3 novembre dernier. Sur la vidéo obtenue par notre bureau d'enquête, on peut voir l'insecte se promener à travers les instruments chirurgicaux sur la table située à quelques centimètres du patient. Ces équipements, comme tout le matériel qui sert à opérer, doivent absolument être stériles. Le personnel a dû prendre un bol en métal pour attraper la coccinelle. La situation est loin d'être isolée dans cet hôpital situé à Greenfield Park sur la rive sud. Seulement en novembre et décembre 2017, le personnel a compté 2 coccinelles, 3 fourmis, 2 mouches et une mouche à fruits au bloc opératoire, selon un rapport interne dont nous avons obtenu copie. Selon la direction, l'hôpital a investi 700 000 $ depuis 2016 pour tenter de venir à bout des problèmes d'infiltration d'insectes et d'humidité excessive, mais rien ne semble y faire. Certains s'inquiètent que la situation redevienne problématique avec le retour des températures plus clémentes. Pourtant, en septembre dernier, la direction avait soutenu que le problème était réglé, après les révélations de notre bureau d'enquête sur la présence d'insectes, même d'une souris. Les événements des derniers mois ont prouvé le contraire. Excédés, une trentaine de chirurgiens et anesthésistes se sont adressés au ministre de la Santé Gaétan Barrette dans une lettre envoyée au début du mois de février. Ils réclament des travaux d'urgence pour refaire le bloc opératoire. La surveillance des cours d'eau du sud et de l'ouest du Québec sera redoublée aujourd'hui et demain à cause du redoux et des précipitations prévues qui pourraient créer des embâcles et causer des inondations. Des quantités de pluie de 20 à 30 mm sont attendues jusqu'à demain. Notons aussi que le mercure sera en hausse jusqu'à 10 degrés Celsius. Avec la fonte de la neige qui va causer du ruissellement dans les cours d'eau, ce sera l'équivalent de 40 à 60 mm, indique Pierre Corbin, directeur des opérations chez Hydro-Météo. Le danger ne sera pas la crue, mais bien la formation d'embâcles. Selon l'expert en surveillance des cours d'eau, les zones les plus à risque sont celles près des frontières américaines et ontariennes, plus précisément la Beauce, l'Estrie, la Montérégie et l'Outaouais. Une veille de débâcle est en vigueur pour les rivières Châteauguay, Aubrechet et l'Acadie. La ministre Isabelle Melançon demandera des vérifications sur l'usage du fonds vert par le ministère des Transports qui utilise les millions de la lutte au changement climatique pour rembourser de vieilles dettes. J'ai un objectif et je veux réduire les gaz à effet de serre de 20 % pour 2020. On veut s'assurer que chaque dollar qu'on investit dans le fonds vert s'en va à la réduction des émissions de GES, gaz à effet de serre, a martelé la ministre de l'Environnement hier. Le journal révélait hier que des dizaines de millions de dollars du fonds vert sont utilisés pour rembourser les dettes des vieux projets du prolongement du métro de Laval et du train de l'Est. L'ex-premier ministre Lucien Bouchard a fait partie de l'équipe de négociation des médecins spécialistes qui a arraché 2 milliards de dollars à l'État québécois, ce que dénonce le député solidaire Amir Kadir. Il me semble qu'il a un devoir, après avoir servi l'intérêt public, de ne pas agir contre l'intérêt public, lance le député de Mercier qui a souvent critiqué les mandats de l'ex-premier ministre à titre de négociateur. La semaine dernière, le gouvernement Couillard a annoncé qu'il versera 2 milliards de dollars de plus aux médecins spécialistes dans le cadre de l'entente qui lie l'État avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec jusqu'en 2023. Québec assure toutefois que ces sommes proviennent d'ententes passées et que le gouvernement ne versera pas d'argent neuf. La Fédération affirme toutefois que Maître Bouchard, Lucien Bouchard, n'agissait pas à titre de négociateur en chef, mais était partie prenante de l'équipe de négociation aux côtés de Maître Sylvain Bellavance, directeur des affaires juridiques et de la négociation à la Fédération, et de Rénald Ferland, vice-président de l'organisme. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, souhaite que la nouvelle structure de l'unité permanente anticorruption, comme corps de police indépendant, soit mise en place d'ici l'été. M. Coiteux souhaite notamment que les nouveaux commissaires adjoints de l'UPAC, dont les responsabilités sont dédictées dans la loi adoptée la semaine dernière par la majorité libérale, soient nommés d'ici l'été. Le ministre se donne le même objectif en ce qui a trait au fameux comité de surveillance chargé de garder un œil sur l'administration de l'UPAC, en plus de faire rapport à l'Assemblée nationale. M. Coiteux a aussi réaffirmé sa volonté de s'attaquer dès maintenant à l'amélioration du climat de travail au sein de l'UPAC, qualifié de pourri par l'Association des policiers provinciaux du Québec. La fillette mutilée a réappris à sourire. Le propriétaire du pitbull qui a mordu la jeune de 7 ans est aujourd'hui accusé de négligence criminelle. Mâchoire fracturée en 7 morceaux, muscles et nerfs de la joue arrachés, oreilles déchirées et paralysie faciale. Le visage de la petite Vanessa Biron a été littéralement broyé le 20 septembre 2015. Peu avant 15 heures, un pitbull l'a attaquée sans raison apparente lorsqu'elle est arrivée au parc Marquise à Brossard, avec sa mère et sa sœur cadette. Le chien agressif nommé Ashes et un bull mastiff nommé Jordan se trouvaient dans le parc sans laisse ni collier. Leur propriétaire, Karim Jean-Gilles, n'était pas sur les lieux, mais la mère de 70 ans de ce dernier se trouvait à proximité. J'ai demandé à la dame pourquoi ces chiens n'avaient pas de laisse. Elle s'est tournée vers moi, mais elle ne m'a pas répondu, a relaté hier Magdalena Bigron, la mère de Vanessa. La femme de 35 ans témoignait dans le cadre du procès de Karim Jean-Gilles pour négligence criminelle, ayant causé des lésions au palais de justice de Longueuil. La procureure de la Couronne, maître Claudie Gilbert, entend démontrer que M. Jean-Gilles a été négligent puisqu'il connaissait le potentiel de dangerosité de ces bêtes. Malgré les nombreuses inquiétudes quant à la congestion routière que va causer le projet Royal Mount, ses promoteurs n'ont pas l'intention de modifier le design du méga-centre commercial de 1,8 milliard de dollars qui doit voir le jour à l'angle des autoroutes 15 et 40. Ces deux autoroutes sont les plus congestionnées du Québec et Andrew Lutfi, le président de Léo, s'attend à ce que le nouveau complexe attire 30 000 automobilistes de plus à partir de son inauguration en 2022. Carbon-Léo fera construire à ses frais un lien piétonnier enjambant l'autoroute des Carrés entre la station de métro de la Savane et son projet. Une voie devrait aussi être ajoutée au chemin Côte-de-Liesse, une nouvelle fois aux frais de Carbon-Léo. L'entreprise présentait lundi de nouvelles esquisses de son projet immobilier. Eric Allen Caldwell, responsable de l'urbanisme et des transports au comité exécutif de Montréal, rappelle que la circulation pose un réel problème aux yeux de la ville-centre. Le Viagra féminin bientôt au Canada. Un médicament pour augmenter la libido des femmes ménopausées sera bientôt disponible sur le marché canadien. L'inventeur du Viagra féminin a presque terminé la construction de son usine à l'ancienne Lorette. L'endocrinologue québécois Fernand Labrie est l'inventeur de l'Intra Rosa, surnommé le Viagra féminin. Le produit est déjà en vente aux États-Unis et en Europe et Santé Canada devrait l'approuver au cours des prochains mois.
Pas bien loin dans les environs, on verra passer des garçons, des grands et des petits, des gros et des courts, des noirs et des blonds. Hourra pour la cuisinière! Il se présente un amour. Faisant sa prière, son petit cœur débat pour le mien, puis le mien débat pour le sien, puis le sien pour le mien, puis le mien pour le sien. Hourra pour la cuisinière!
Elle interprétera la Bolduc dans les semaines à venir au cinéma. On entendait Debbie Lynch White qui chantait La cuisinière.
Les journaux régionaux, Patrick Duquette dans Le Droit, une chronique intitulée « Univers parallèle ». C'est à croire que Transport Québec vit dans un univers parallèle à la Stranger Things. Je parle de cette nouvelle étude pour améliorer le transport en commun dans l'ouest de Gatineau et solutionner les problèmes croissants de congestion routière dans le secteur Elmer. Une étude que le ministère québécois des Transports, MTQ, a commandée en 2011 et qu'il a ensuite mis des mois et des mois à rendre publique. Or, qu'est-ce qu'on a appris vendredi lors du dévoilement tant attendu de cette étude sur le Rapibus de l'Ouest? Que le MTQ n'a pas demandé aux consultants de tenir compte d'un détail pourtant incontournable dans l'analyse des différents scénarios, la réalité frontalière. Vous avez bien lu, on a fait comme si Ottawa n'existait pas, comme si 40 % des déplacements effectués par les Gatinois ne se faisaient pas vers un lieu de travail situé à Ottawa. À qui la faute? À un mystérieux guide ministériel du MTQ qui ne permettait pas d'analyser les possibilités d'arrimage avec le système de transport ottavien. Et bien si le guide était inapproprié, il fallait changer le guide, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une étude d'un demi-million qui ne répond que partiellement aux nombreuses questions qu'on se pose sur la meilleure solution à retenir pour le futur lien rapide vers l'Ouest. Parfois, c'est à se demander sur quelle planète vivent les gens du MTQ. Ils n'entendent pas ce qui se dit autour d'eux? Les maires d'Ottawa et de Gatineau ne cessent d'insister sur la nécessité de bien arrimer leurs deux systèmes de transport en commun. On vient même de créer une instance interprovinciale pour mieux coordonner les efforts en ce domaine. Quand la ville d'Ottawa a produit son étude de faisabilité pour l'eau-train, elle a tenu compte du taux d'achalandage de toute la grande région d'Ottawa-Gatineau, pas seulement d'Ottawa. Pourquoi le MTQ n'a-t-il pas fait pareil? Surtout dans le contexte actuel où les politiciens de tout acabit se montrent de plus en plus déterminés à faire tomber les barrières interprovinciales. On comprend mieux pourquoi l'ancien président de la Société de transport de l'Outaouais, Gilles Carpentier, a pété sa coche contre la Direction régionale de Transport Québec l'automne dernier. La même direction régionale qui n'a pas cru bon de réagir quand Gatineau l'a averti qu'une section névralgique de l'autoroute 50 menaçait d'être inondée le printemps dernier. Le nouveau ministre québécois des Transports, André Fortin, semble résolu à réajuster le tir. Il a admis que Québec doit cesser d'intervenir en Outaouais comme si l'Ontario n'existait pas. C'est vrai en transport en commun, mais je dirais que ça l'est aussi en santé, en éducation, en développement économique, en tourisme, point de suspension. Cette façon de concevoir l'Outaouais comme une planète isolée du reste de la galaxie est contre-productive et alimente cette impression bien ancrée que la région est la grande oubliée du Québec. Ceci dit, l'étude du MTQ nous apprend au moins deux choses utiles. D'abord, qu'un service rapide par autobus vers Elmer deviendrait saturé très rapidement et n'est donc pas une solution viable à long terme. Bien que beaucoup plus cher, l'option d'un tramway train léger mérite donc d'être considérée très sérieusement. D'autant plus que le fédéral est prêt à ouvrir ses goussets pour financer ce genre de projet et que Gatineau se doterait alors d'une technologie compatible avec celle de sa voisine Ottawa. L'autre chose, c'est qu'on ne pourra pas se limiter à un seul corridor de transport en commun vers l'ouest. Il en faudra au moins deux pour que le service soit rapide et fiable, soit un qui passe par le boulevard Taché, et l'autre par le boulevard des Allumetières. D'autres études, car il en faudra d'autres, viendront mieux documenter ces scénarios. Dans le quotidien, démystifier l'homosexualité et la bisexualité au Québec, c'est un article d'Anne-Marie Gravel, des interventions auprès des jeunes visant à démystifier l'homosexualité et la bisexualité ainsi que des formations pour soutenir le personnel qui les entoure sont disponibles gratuitement dans certaines régions du Québec, notamment le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le projet Le GRI Québec en région vise à faciliter le processus d'intégration et la diversité sexuelle et de genre dans les milieux scolaires et jeunesse, ainsi qu'à déconstruire les mythes et les préjugés auprès des jeunes. En plus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les régions de Charlevoix, Portneuf, de la Côte-Nord et du Nord du Québec ont accès au programme mis sur pied grâce au soutien financier du Bureau de lutte contre l'homophobie du ministère de la Justice et à la collaboration du Groupe régional d'intervention sociale, donc le GRI, de Québec, un organisme d'éducation et de sensibilisation qui a pour mission de promouvoir une vision positive de l'homosexualité et de la bisexualité. Le projet prend la forme d'une offensive visant à réagir aux constats faits sur le terrain. Effectivement, une importante étude québécoise a notamment révélé que 4 élèves sur 10 sont victimes d'intimidation à caractère homophobe en 3e et 5e secondaire, et ce, sans égard à l'orientation sexuelle. 9 élèves sur 10 rapportent aussi entendre souvent ou à l'occasion des remarques à caractère homophobe. Dans le Nouvelliste, le rang Saint-Michel bientôt réparé à Saint-Félicitain, Saint-Célestin, dis-je bien. Les citoyens de la paroisse de Saint-Célestin pourront bientôt emprunter à nouveau le rang Saint-Michel. Cette route, dont une portion importante avait été emportée par un glissement de terrain le 22 mai dernier, pourra enfin être reconstruite, un chantier qui devrait se terminer vers la fin du mois de mars. Dans la tribune, 1,3 million dans la forêt magique de Coaticook. Loin de s'asseoir sur le succès fulgurant de Foresta Lumina à Coaticook, les personnalités politiques de la région ont annoncé lundi un investissement totalisant 1,3 million de dollars destiné à améliorer le parcours et à ajouter un prélude interactif au centre-ville. Le projet inclut la création d'une aire nouvelle qui va s'ajouter au parcours actuel, ainsi que l'amélioration d'une section déjà existante de manière à faire durer l'expérience plus longtemps et à la rendre encore plus mémorable. De plus, une murale animée expliquant les prémices de Foresta Lumina et de ses 7 personnages sera ajoutée à la place Tillotson, située en plein cœur du centre-ville. Le tout devrait être complété pour la mi-juin, juste à temps pour la saison 2018. Le député de Saint-François, Guy Hardy, a annoncé une contribution de 442 200 $ de la part du gouvernement provincial par le biais du ministère du Tourisme. Le parc de la Gorge investit quant à lui 700 000 $, la ville de Coaticook 125 000 et la MRC de Coaticook 58 000 $ supplémentaires, totalisant un montant de 1,3 million de $. Monsieur Hardy est pleinement conscient de la popularité de cette attraction et de l'achalandage qu'elle amène. Foresta Lumina, c'est un attrait touristique important pour Coaticook, mais pour toute l'Estrie aussi. Ça amène des touristes de partout au Québec et même d'autres pays dans notre belle région, ce qui est très bon en termes d'économie et de visibilité. Plus de 150 000 visiteurs foulent les sentiers de la forêt magique chaque été. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens. Je vous souhaite un agréable mardi. C'est Hélène Denis qui vous accompagne et je vous invite à rester là puisque dans un petit moment, il y aura une chanson et puis aussi les actualités culturelles ainsi que le segment Sujet libre.
l'artiste Fishback qui nous chantait Mortel.
Actualité culturelle, 4 jours de fête pour la maison Claude Léveillé. Ce mercredi sera inaugurée la maison de la culture Claude Léveillé, la petite nouvelle du réseau montréalais qui aura ses racines dans Villeray, a prévu 4 jours de célébration pour marquer le coup. Du 22 au 25 février, de nombreuses performances et animations artistiques auront lieu, notamment un hommage à Claude Léveillé, livré sous la forme d'un spectacle piano-voix conçu sur mesure pour célébrer la mémoire de ce monument incontestable de la chanson québécoise. Catherine Major assurera la direction artistique de cet hommage, qui comptera aussi sur les voix et les énergies de Daniel Lavoie, Pierre Flynn, Ingrid Saint-Pierre et Morand. La nouvelle maison de la culture Claude Léveillé rassemblera sous un même toit au rez-de-chaussée du 911 rue Jean Talon-Est, une salle de spectacle de qualité professionnelle de 260 places, une spacieuse salle d'exposition, une salle de médiation culturelle et un grand foyer pour l'accueil des citoyens. Les Jeunesses musicales du Canada ont procédé lundi à la dénomination officielle de leur maison de l'avenue du Mont-Royal-Est. Elle portera désormais le nom de Maison André Bourbeau des Jeunesses musicales Canada. Ce choix toponymique est un juste hommage envers l'ancien député de La Porte, 1981-2003, qui occupa plusieurs fonctions ministérielles entre 1985 et 1994. Depuis 1994, André Bourbeau a été très engagé auprès des Jeunesses musicales et de leur fondation. Il y a occupé de nombreuses fonctions, accompagnant le développement et la consolidation financière des Jeunesses musicales du Canada et fut, avec la basse Joseph Rouleau, à l'origine du Concours musical international de Montréal fondé en 2002, dont les JMC, les Jeunesses musicales du Canada, furent la cheville ouvrière. Amos d'Aragon, la série animée confirmée. Élaborée il y a une dizaine d'années, le projet de série d'animation inspiré des aventures du personnage Amos d'Aragon pourra enfin voir le jour. La firme Iceworks Animation, à laquelle est associé l'auteur Brian Perrault, produira une première série d'émissions à Magog où elle est installée. Ayant piloté le projet, le producteur créatif Sylvain Viaud confie avoir complété ses démarches en vue de dénicher du financement lundi matin. Il a dû travailler avec acharnement pour mener le bateau à bon port et est arrivé à ses fins. La structure financière est confirmée depuis ce matin, on parlait de lundi. C'est grâce au soutien de la région de Magog que ce projet se concrétisera, a déclaré M. Viaud lors d'une conférence de presse tenue en après-midi à Magog. Iceworks a prévu produire une première série de 13 épisodes qui constitueront une suite aux histoires racontées dans les romans de Brian Perrault, mettant en vedette Amos d'Aragon. On en fera 13 pour débuter, mais le but, c'est d'en faire plus que ça, précise le producteur. D'ailleurs, je commence dès aujourd'hui à travailler pour créer une deuxième saison. propos de cette nouvelle, présent à la conférence de presse, Brian Perrault n'a pas caché son excitation. « C'est un magnifique moment pour moi aujourd'hui », a-t-il déclaré. « J'ai toujours dit qu'on était capable de gérer nos affaires nous-mêmes en création au Québec. » Jean-Philippe Vautier, qui co-animait Les Gémeaux depuis 2 ans avec Éric Salvaille, reviendra à la barre du gala de la télévision le 16 septembre prochain. On fait suffisamment confiance à Vautier pour lui confier l'animation en solo, lui qui pilote déjà Les Dieux de la danse et Le Beau Dimanche sur Ici Radio-Canada Télé, et La soirée est encore jeune sur Ici Première. Le duo Salvaille-Vautier avait opté pour un humour plutôt acide ces 2 dernières années. On devine que Vautier ne se gênera pas pour écorcher son ancien collègue dans son numéro d'ouverture. En période d'inscription jusqu'au 28 février, l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision au Québec a ajouté 4 nouvelles catégories de métiers en fiction et en jeunesse pour les médias numériques. La SODEC a annoncé hier le financement de 10 projets de documentaires, dont Les Roses, un film de Félix Rose, fils de Paul et neveu de Jacques Rose. Les deux hommes étaient membres de la cellule Chénier du Front de libération du Québec, FLQ, qui a enlevé le ministre du Travail Pierre Laporte en octobre 1970. Une décision qu'ils n'ont jamais remise en cause malgré la loi sur les mesures de guerre et la mort tragique de leur otage, lit-on dans le communiqué de la SODEC. 50 ans plus tard, Félix Rose revient sur les événements dans une quête personnelle, explorant au passage l'histoire et l'héritage de sa famille. Plusieurs autres projets seront à suivre, dont une seconde réflexion de Fernand Dansereau sur l'érotisme et le vieillage et misogynie, 2.0 sur la cyberviolence contre les femmes de Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. Le très beau Corteo, imaginé par Daniele Fenzi-Pasca, nous reviendra dans une version rafraîchie. Voici que le spectacle festif nimbé de mystère, ancré entre ciel et terre, réapparaîtra à Montréal et à Québec, mais cette fois en aréna, en décembre prochain. Depuis sa création en 2005, Corteo en a mis plein la vue à 8 millions de paires d'yeux dans 64 villes réparties un peu partout sur le globe. Dans une ambiance de fête foraine, un clown y évoque ses propres funérailles sous le regard attentionné d'une volée d'anges bienveillants. Daniele Fenzi-Pasca continue à veiller lui-même sur son univers, qui promet de transporter le spectateur dans une atmosphère théâtrale jamais vue en aréna au Cirque du Soleil. Non seulement Black Panther fracasse des records au box-office, mais le film de Marvel s'attire aussi les éloges de personnalités publiques partout dans le monde, dont l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama. Le film de Ryan Coogler, qui met en scène des personnages principaux noirs, a réalisé de vendredi à hier des recettes de 235 millions de dollars au box-office nord-américain, un record pour le long week-end du jour des présidents. Si on considère les 3 premiers jours, il vient au 5e rang des départs les plus lucratifs de l'histoire. Michelle Obama a par ailleurs remercié le réalisateur Ryan Coogler sur Twitter. « Grâce à toi, des jeunes vont enfin voir des super-héros comme eux au grand écran », lui a-t-elle écrit. La bande originale du film, qui a été produite par le rappeur Kendrick Lamar, a aussi pris la tête du palmarès des ventes d'albums aux États-Unis. Et des internautes ont annoncé la fausse mort de Sylvester Stallone. Premièrement, ils ont annoncé sa mort, mais entre parenthèses, on peut bien lire « fausse » sur les réseaux sociaux. Un canular que le frère de l'acteur, Frank Stallone, a rapidement condamné. « Les rumeurs voulant que mon frère soit mort sont fausses. Quel genre d'esprit malade et cruel pense à publier des choses comme ça? Le principal intéressé a réagi quelques heures plus tard. « S'il vous plaît, ignorez ces stupidités. Je suis en vie, heureux et en santé. Je continue de donner des coups de poing », a écrit l'interprète de Rocky Balboa sur ses comptes Instagram et Twitter. À l'automne 2016, l'acteur avait fait l'objet de la même rumeur, soit qu'il était mort au terme d'un combat contre le cancer de la prostate. Non, Sylvester Stallone est bien vivant.
Rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, 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 j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, hey, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
San Severino nous chantait « Mal aux mains ».
Je vais lire l'éditorial d'Alexandre Sirois intitulé « Vive le mépris des adolescents pour l'hypocrisie !» Si le président Donald Trump veut venir me dire en face que c'était une terrible tragédie, que ça n'aurait pas dû se produire et qu'on ne peut rien y faire, il me fera plaisir de lui demander combien il a reçu d'argent de la National Rifle Association. Pendant une dizaine de minutes samedi, Emma Gonzalez a dénoncé l'hypocrisie et la passivité des politiciens américains sur la question des armes à feu. Son discours, d'une sincérité désarmante, est rapidement devenu viral. Tout comme les réactions de plusieurs autres élèves de l'école, où 17 personnes ont été tuées la semaine dernière. Ils en ont assez d'entendre les politiciens et les autres ténors du Parti républicain et de la toute-puissante National Rifle Association dire que ces tueries n'ont rien à voir avec les armes à feu. Et ils réclament du changement, on les comprend. Je me suis cachée dans une armoire pendant 2 heures. Vous n'étiez pas là. Vous ne savez pas comment on se sent. C'est une question d'armes à feu, a écrit sur Twitter une autre survivante indignée, Carly Novel. Le tweet a été relayé et aimé par plusieurs centaines de milliers de personnes. Une journaliste du New Yorker a bien résumé le phénomène auquel on est en train d'assister. Une manifestation du « mépris des adolescents américains pour l'hypocrisie », a-t-elle écrit. C'est vrai. C'est d'ailleurs une manifestation aussi saisissante que rafraîchissante et, dans une certaine mesure, encourageante. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces élèves ne sont pas déconnectés. Ils sont plutôt en phase avec la réalité américaine. Ils ne prêchent pas dans le désert. Plusieurs sondages ont démontré ces dernières années qu'une majorité d'Américains souhaitent un meilleur contrôle des armes à feu. C'est ce que réclamaient 64 % des personnes interrogées l'automne dernier dans la foulée de la fusillade à Las Vegas, selon un sondage effectué pour le magazine Politico. Et selon une autre étude, pas moins de 8 Américains sur 10, 79 % sont en faveur d'une interdiction des fusils d'assaut, comme le tristement célèbre AR-15. Par ailleurs, le nombre de ménages où on retrouve des armes à feu est en baisse depuis les années 90. Oui, vous avez bien lu. De 1994 à 2016, il est passé de 53 % à 36 % selon un sondage du réseau CBS. Ce n'est peut-être pas irréversible, mais c'est tout de même un net déclin. Ce sont les politiciens au pouvoir à Washington qui sont déconnectés de l'opinion publique américaine sur la question des armes à feu. Leur apathie pitoyable et leur hypocrisie s'expliquent facilement. Premièrement, le Parti républicain contrôle la Maison-Blanche et les deux chambres du Congrès américain. Deuxièmement, la National Rifle Association demeure, pour le Parti républicain, une source de financement fiable. Elle a dépensé plus de 30 millions de dollars US en 2016 uniquement pour soutenir la candidature de Donald Trump. À l'inverse, elle peut traîner dans la boue les républicains jugés trop timides dans le dossier des armes à feu. Troisièmement, les électeurs qui s'opposent au contrôle des armes à feu se mobilisent avec plus d'enthousiasme à chaque scrutin que ceux qui en voudraient davantage. En somme, à court terme, le courage lucide des élèves floridiens risque fort de ne rien changer. Mais c'est néanmoins un pas dans la bonne direction. Leurs doléances ne sont pas sans écho et ils n'ont pas fini de protester. Une importante manifestation est prévue le 24 mars. Par ailleurs, les mentalités changent et bientôt, ils seront eux-mêmes en âge de voter. Il y en aura peut-être un jour, donc, du progrès. Mais en attendant, ce n'est pas faire preuve de fatalisme que de prédire d'autres tueries, d'autres enterrements et d'autres deuils aux États-Unis. C'est, hélas, faire preuve de réalisme. Pyeongchang 2018, skieur alpin le plus décoré de l'histoire canadienne, Éric Gay s'est joint à l'équipe de débat pour faire part de ses observations au fil des deux semaines olympiques. Et son texte s'intitule « Et si ?» Point de suspension. C'est un parcours qui te convenait vraiment bien. Tu aurais bien fait, c'est certain. C'est ton genre de piste. Je n'en veux évidemment pas à mes amis ni à tous ceux qui m'ont abordé depuis mercredi dernier, jour de la finale de la descente masculine olympique. Ils veulent m'encourager, je comprends parfaitement. Mais entendre ce genre de message, ça m'a fait mal, un peu. Et ça m'a aussi fait douter, je dois l'avouer. Non pas en mes capacités, parce que je suis persuadée que si j'avais été en santé, j'aurais pu faire un très bon temps en descente. Je sais que mes amis ont raison. La piste de Pyeongchang convenait très bien à ma façon de skier. C'est un tracé particulier où le vent est bien présent. Il fallait donc être agressif tout en étant relax. Les skieurs d'expérience étaient avantagés. Des skieurs plus âgés comme Axel Lund Svindal, 35 ans, qui a fait pratiquement un sans faute et remporté la médaille d'or. C'est en le regardant descendre et gagner que le doute a surgi chez moi. Les questions ont commencé à se bousculer dans ma tête. Et si j'avais combattu ma blessure? Et si j'avais reçu une injection dans le dos? Et si j'avais décidé d'aller au jeu quand même? Et si j'avais pris le départ? Et si... Je croyais avoir fait le deuil des Jeux olympiques depuis un bout de temps déjà, depuis le début de l'année 2018 en fait. Je m'étais trompée, semble-t-il. J'ai passé les derniers jours à regarder les épreuves de ski tant chez les hommes que chez les femmes. Et c'est lors des épreuves de vitesse, en voyant Svindal et les autres descendre à vive allure, que j'ai remis en doute ma décision de ne pas aller à Pyeongchang. Et pourtant, au fond de moi, je sais que c'était mieux de rester à la maison. C'était la décision logique à prendre. Actuellement, mon corps n'est pas en mesure de suivre mes aspirations et j'aurais vécu des frustrations en voulant compétitionner avec les autres skieurs du circuit. D'ailleurs, ce matin, j'ai mal au dos et j'ai de la difficulté à me pencher. Alors voilà, le doute est un état d'esprit puissant, mais mon mal de dos l'est encore plus. Pour ceux qui cherchaient l'histoire la plus impressionnante des Jeux, elle a eu lieu samedi dernier, vendredi soir au Québec, et elle met en scène une spécialiste de la planche à neige dans une épreuve de ski. Si j'avais prédit la victoire de Svindal dans la descente masculine, de même que les bonnes performances de Jitil Jangrud, de Beat Ferns et de Michaela Schifrin, il est impossible d'imaginer qu'Esther Ledecka allait remporter le Super G féminin. Vous la connaissez, vous, avant de la voir descendre? Vous la connaissiez, vous, avant de la voir descendre la piste? Pour ma part, pas vraiment. Je savais qu'elle était double championne du monde en planche à neige, ce qui est déjà très impressionnant. Et voilà maintenant qu'il faudra aussi dire qu'elle est championne olympique au Super G féminin. Elle a devancé les grandes vedettes de l'épreuve, Anna Witt, Lara Gut et même Lindsay Vonn, qui se reprendra sans doute lors de la descente, n'ont pu faire mieux qu'elle. Ce n'est pas la première fois que je vois un skieur ou une skieuse moins bien classée connaître une grande journée. Mais ce que la Tchèque a réussi à faire est tout simplement magistral. Elle partait 26e et a terminé première. Improbable. Elle-même a été surprise de l'emporter. À l'arrivée au bas de la piste, elle croyait à une erreur de chrono. Je n'avais jamais vu une telle performance. Et voilà qu'il lui reste le slalom en planche à neige, une épreuve où elle est l'une des favorites. Esther Ledecka pourrait donc repartir avec l'or dans deux disciplines olympiques différentes. En voilà une qui vient de se faire un nom. Je n'ai jamais été victime de menaces, ni dans la vraie vie, ni sur les médias sociaux, jamais. Je n'ai même jamais reçu aussi peu de commentaires négatifs sur ce que je dis ou sur ce que je mets en ligne. Alors quand j'ai su que la patineuse de vitesse Kim Boutin avait été menacée de mort sur les réseaux sociaux, je n'en revenais pas. Et pourquoi au juste? Tout simplement parce qu'un arbitre a disqualifié la patineuse sud-coréenne lors de la finale du 500 mètres pour avoir accroché la Québécoise. Dans cette histoire, il faut garder en tête que Kim n'a fait que son travail, soit patiner le plus vite possible. Une décision arbitraire hors de son contrôle lui vaut des messages de haine et des menaces de mort. C'est inacceptable. Personne ne mérite de recevoir des menaces, qu'elles soient virtuelles ou bien réelles. Propos recueillis par Philippe Beauchemin, les propos d'Éric Gay. Et pour terminer, le milliardaire américain Bill Gates estime qu'il devrait, ainsi que tous les richissimes contribuables aux États-Unis, payer davantage d'impôts en qualifiant la réforme fiscale du président Donald Trump de régressive. « Je devrais payer davantage d'impôts », a affirmé M. Gates sur CNN. J'ai payé davantage d'impôts, plus de 10 milliards de dollars que quiconque, mais le gouvernement devrait exiger des personnes dans ma position de payer des impôts bien supérieurs. Deuxième homme le plus riche du monde derrière le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, le cofondateur de Microsoft a une fortune estimée à plus de 90 milliards de dollars, dont il a orienté une grande partie vers des causes humanitaires et à la recherche médicale notamment. Merci d'avoir été à l'écoute de Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis. Je vous rappelle que j'anime l'hyperactualité dans quelques secondes si vous nous écoutez en direct. Merci Maurice Bolduc. À la prochaine. Demain, Jean-Sébastien Laliberté sera de retour.